C'est un réel plaisir pour moi d'être à nouveau parmi vous ce matin. Pour ceux qui n'étaient pas là, j'étais venu il y a 2, 3 mois, en avril, où vous m'aviez invité aussi à prêcher. En tout cas, merci. Et donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, bon, Yvonne vient de le dire, je m'appelle Nicolas. Je suis venu avec ma petite famille, Véronica, si vous l'avez pas vue, ma femme et mes 2 enfants, là, qui sont partis avec Jean-Louis, Mia et Luca. Alors, nous sommes l'église du CEP Marseille, effectivement. Et en fait, on vous transmet aussi les salutations de la part de notre église locale. Merci beaucoup à Yvonne et à l'équipe de louanges, hein, de nous avoir conduits dans cette première partie, dans cette adoration à notre Dieu, dans cette contemplation de la gloire de notre Dieu. La gloire de Dieu, un vaste sujet, n'est-ce pas? Ce qui me fascine, c'est de savoir qu'initialement, cette gloire nous est complètement inaccessible. Un peu comme, en fait, si on était complètement disqualifié pour nous tenir devant Dieu. Complètement disqualifié pour nous tenir dans l'équipe de Dieu. Je pense, comme moi, vous avez tous, plus jeunes, été à l'école. Et je ne sais pas si vous vous rappelez ou vous avez vécu ce moment où, dans la cour de récré, peut-être vous allez jouer un match de foot ou un match de balle à prisonnier. Et en fait, on attend que les deux capitaines qui se dessinent choisissent un à un qui va être dans son équipe. Et plus il y a de monde à choisir, plus c'est un peu humiliant. Vous savez, quand on fait partie des 2 derniers appelés, là. En fait, on aimerait tous être choisis parmi les premiers. Et forcément, on trouve ça beaucoup plus valorisant. On a l'impression de compter, d'avoir une valeur, d'être important. Alors, bien sûr, si on est désigné en tant que capitaine, c'est le Graal, mais on a même l'impression d'avoir accompli quelque chose. Mais après, si on est honnête avec nous-mêmes, ben des fois, on s'avoue que ouais, je risque pas d'être pris en premier parce que bon, mon talent est un peu médiocre, un peu en sport. Des fois, on veut quand même être choisi, même si on n'est pas très très bon. Et je réfléchis, comment est-ce que je vais pouvoir être choisi malgré mon manque de talent? Et puis peut-être qu'on a une idée. Ouais, ben je viens d'avoir un nouveau ballon. Ben, je vais dire, si tu me prends dans ton équipe, ben ouais, je te prête mon ballon, quoi. Peut-être si on n'a pas de ballon, on se dit, j'ai peut-être eu la console de jeu à la maison. Ben, si tu me prends dans ton équipe, ben à la maison, ben, je te ferai jouer à FIFA sur la console de jeu, si tu veux. Ou alors tu t'assures d'être simplement peut-être le meilleur ami d'un des deux capitaines. On essaye en fait finalement de trouver plusieurs stratégies pour être sûr de ne pas être choisi en dernier. Et puis une chose très importante, même si on n'est pas choisi en premier, on espère quand même être dans l'équipe qui va gagner. Parce que même si je suis choisi en premier, mais que je perds, c'est un gros problème. Donc quand on voit... Vous savez, il y a toujours dans l'école une personne, que ce soit un ou une, qui est toujours un peu plus fort que les autres. Quand il est dans cette équipe, ben en fait, peu importe si je sois premier choisi ou dernier, j'aimerais être dans cette équipe-là, en fait. Ce matin, j'aimerais nous inviter à observer un personnage dans la Bible, plus particulièrement une femme que tout disqualifiait d'avance pour être dans la bonne équipe. Tout la disqualifiait pour être dans l'équipe de Dieu. Une femme qui pourtant, on va le voir, est passée de l'équipe perdante d'avance à l'équipe gagnante. La femme dont je parle, si tu peux afficher, elle s'appelle Rahab. Je ne sais pas si vous la connaissez dans la Bible. L'auteur de l'épître aux Hébreux, dans son chapitre 11, si vous connaissez le chapitre 11 de Hébreux, il va décrire tout plein de personnes qui, dans leur vie, ont été remarquables pour une chose, c'est leur foi en Dieu. On peut les appeler les héros de la foi. Et en fait, cette femme, Rahab, elle fait partie de ces héros, une héroïne de la foi. Et du coup, je vous propose que dans un premier temps, on puisse en apprendre un peu plus sur cette femme et sur son acte de foi. On mettra ensuite en avant un un petit peu le focus de l'action de Dieu dans tout cela, par sa grâce immense et sans limite. Et enfin, je nous proposerai une conclusion en se posant cette question-là. Comment, en fait, est-ce que l'exemple de la vie de Rahab peut m'impacter, moi, à mon niveau, aujourd'hui, en 2026? Pour cela, je nous invite à lire le chapitre 2 du livre de Josué. On lira les 21 premiers versets. Alors, vous pouvez suivre dans votre Bible, mais sinon, normalement, j'ai mis le texte ici. Et je lis dans la version du Semeur. De Shittim, Josué, fils de Noun, envoya secrètement deux hommes chargés d'une mission de reconnaissance. Il leur donna cette consigne. Allez explorer le pays, en particulier la ville de Jéricho. Ils partirent, et arrivés à Jéricho, ils entrèrent dans la maison d'une prostituée nommée Rahab, et y passèrent la nuit. On prévint le roi de Jéricho que des Israélites étaient arrivés pendant la nuit pour reconnaître la région. Alors il envoya dire à Rahab, « Livre-nous les hommes qui sont venus chez toi et qui logent dans ta maison, car ils sont venus pour espionner tout le pays. » Mais la femme emmena les deux hommes et les cacha. Puis elle répondit, « Effectivement, des hommes sont venus chez moi, mais j'ignorais d'où ils étaient. Et comme on allait fermer la porte, ils sont repartis à la tombée de la nuit. Je ne sais pas où ils sont allés. Dépêchez-vous de les poursuivre, car vous pouvez encore les rattraper. » En fait, elle les avait fait monter sur le toit en terrasse de sa maison et les avait cachés sous un tas de tiges de lin qu'elle avait rangées là. Les envoyés du roi se lancèrent à leur poursuite sur le chemin qui mène au gué du Jourdain. Dès qu'ils eurent quitté la ville, on referma la porte derrière eux. Rahab monta sur la terrasse et vint trouver ses hôtes avant qu'ils ne se couchent. Elle leur dit, « Je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur s'est emparée de nous et tous les habitants de la région sont pris de panique à cause de vous. Car nous avons entendu que l'Éternel, a mis à sec les eaux de la mer des roseaux devant vous lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Nous avons appris comment vous avez traité les deux rois des Amoréens, Sihon et Og, qui régnaient de l'autre côté du Jourdain pour les vouer à l'Éternel en les exterminant. Depuis que nous avons entendu ces nouvelles, le cœur nous manque et personne n'a plus le courage de vous tenir tête. En effet, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut, dans le ciel et ici-bas, sur la terre. Maintenant, je vous prie, jurez-moi par le nom de l'Éternel qu'en reconnaissance pour la bonté que je vous ai témoignée, vous aussi, vous traiterez ma famille avec la même bonté. Et donnez-moi un gage certain que vous laisserez la vie sauve à mon père, à ma mère, à mes frères et sœurs et à tous les membres de leur famille, et que vous empêcherez que nous soyons mis à mort. » Les deux hommes lui répondirent, « Notre vie répondra de la vôtre, pourvu que tu gardes le secret de cet engagement entre nous. Lorsque l'Éternel nous donnera ce pays, nous serons fidèles à notre promesse et nous te traiterons avec bonté. Or, la maison de Rahab était construite dans le mur même des remparts de la ville, et elle habitait ainsi sur les remparts. Ainsi, elle put faire descendre les deux hommes par la fenêtre au moyen d'une corde. « Dirigez-vous vers les collines, leur commanda-t-elle, pour échapper à ceux qui vous suivent, et cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous pourrez reprendre votre route. » Les deux hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous allons nous acquitter du serment que tu nous as fait prêter. Lorsque nous serons entrés dans ton pays, attache ce cordon rouge à la fenêtre par lequel tu nous as fait descendre. » Puis réunis dans ta maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Si l'un d'eux franchit la porte de ta maison pour aller dehors, il sera seul responsable de sa mort, nous en serons innocents. Par contre, si l'on porte la main sur l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, c'est nous qui porterons la responsabilité de sa mort. Toutefois, si tu divulgues cet engagement entre nous, nous serons dégagés du serment que tu nous as fait prononcer. » Elle répondit, « D'accord. Que les choses soient comme vous l'avez dit. » Puis elle les fit partir et ils s'en allèrent. Aussitôt, elle attacha le cordon rouge à sa fenêtre. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous connaissiez ce récit. Et dans ce récit particulièrement, vous voyez, on a deux équipes qui s'apprêtent à s'affronter. On a Jéricho d'un côté et on a le peuple d'Israël de l'autre. Rahab, qui habite à Jéricho. En fait, elle est décrite comme, donc c'est une prostituée qui a hébergé du coup les deux espions envoyés par Jacob, par Josué, pardon, dans le but de prendre des informations importantes concernant Jéricho afin de la conquérir. En fait, il y a deux espions qui se sont très rapidement fait remarquer, comme le dit le texte, par les habitants de Jéricho. Quand le roi a demandé à Rahab de lui livrer ces deux hommes qui logeaient chez elle, en fait, elle aurait pu, par un acte de loyauté envers son roi, envers sa patrie, elle aurait pu les dénoncer, elle aurait pu les livrer, de sorte qu'ils ne puissent pas retourner auprès de Josué pour faire leur rapport de reconnaissance. Et peut-être ainsi espérer mettre des bâtons dans les roues du peuple d'Israël, qui prévoyait justement de s'attaquer à Jéricho. En fait, au lieu de ça, elle a préféré cacher les espions chez elle et leur laisser la vie sauve. Cela pour un but bien précis. Rahab avait envie de changer de camp. Non pas qu'elle en avait marre, en fait, de là où elle habitait, non pas qu'elle en avait marre de son roi. En fait, ce qu'elle craignait avant toute chose, un peu comme ce que je vous disais tout à l'heure dans mon exemple, c'était celui qui avait dans l'équipe d'en face. Elle craignait Dieu, ce Dieu dont elle en avait parlé. Et Rahab, en fait, elle en parle dans les textes qu'on vient de lire. Elle leur dit, je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur s'est emparée de nous et tous les habitants de la région sont pris de panique à cause de vous. Elle avait peur de ce Dieu-là, parce qu'ils en avaient entendu parler. Elle parle de deux événements, notamment des deux rois amoréens que le peuple d'Israël a fait tomber. C'est la défaite de ces deux rois est datée de quelques mois avant ce récit. Par contre, elle parle aussi des eaux qui ont été partagées en deux. Ces eaux-là, partagées en deux par Moïse, ça faisait 40 ans à ce moment-là que ça s'était passé. Donc imaginez-vous à la place de Rahab et donc j'imagine des habitants de Jéricho, ils ont entendu parler de ce peuple d'Israël dont le Dieu a écarté la mer en deux pour échapper aux Égyptiens. Et ça fait 40 ans qu'ils espèrent sincèrement qu'ils n'arrivent pas chez eux. Donc quand ils entendent que les deux rois amoréens, pas très loin de chez eux, viennent de tomber, imaginez la panique qu'ils pouvaient avoir chez eux de se dire, mince, ça y est, ce Dieu, il y a 40 ans, qui a séparé la mer en deux, il est devant nous, là, en fait. Et là, on peut imaginer une chose, c'est pas écrit dans le récit, mais on peut imaginer la panique, non seulement des habitants, mais du roi, de son armée. Et donc, en fait, ils devaient être tous alertes à ce moment-là. Ils devaient se dire, il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on se protège. On a des grandes murailles, certes, mais si jamais ils nous attaquent, il faut qu'on soit préparé. Donc, quand il est dit dans ce texte que deux espions de Josué ont été repérés très rapidement, c'est pas que les deux espions étaient nuls, en fait. C'est juste qu'ils étaient tellement alertes dans le pays que la moindre chose de travers, les moindres étrangers qui venaient pas du pays, ils devaient être repérés directement. Et Rahab, en fait, elle vivait dans cette peur ambiante. Une peur qui était dirigée vers ce Dieu qui semblait plus puissant que n'importe quel Dieu. Une crainte de celui qu'elle appellera éternel. Et qui lui fera prendre une décision ô combien primordiale, non seulement pour sa propre vie, mais aussi pour la suite de la conquête du pays. Une crainte de l'Éternel qui a suscité en elle une foi indéfectible dans le seul et unique vrai Dieu. Elle le dit en effet, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et ici-bas sur la terre. Et là, elle pose ses pions. Elle doit changer de camp, et ce, à n'importe quel prix. Quitte à cacher les espions de Josué aux yeux de son roi. Quitte à se mettre, en fait, elle-même en danger et être prête à mourir si jamais les gardes du roi découvraient qu'elle les avait cachés. Et c'est, en fait, guidée par cette crainte de Dieu qu'elle va couvrir les espions et réclamer qu'on lui laisse la vie sauve à elle et à sa famille. Car oui, en fait, elle sait déjà, c'est fou, hein, mais elle sait déjà avec foi que Jéricho a déjà perdu la guerre. Elle sait que les murailles fortifiées de la ville, aussi hautes et épaisses soient-elles, ne seront pas sa porte de salut. Elle sait, au moyen de la foi qui lui a été suscitée par la crainte de l'Éternel, que sa seule porte de salut réside dans ce Dieu d'Israël. Un Dieu qu'elle ne connaît pas, en fait. Ce Dieu qui est en haut dans le ciel, comme elle le décrit, et ici-bas, sur la terre. Et les espions vont lui promettre de lui laisser la vie sauve. Et la suite du récit, vous le connaissez certainement, va en faveur de cette foi que Rahab a mise dans ce Dieu. On apprend un peu plus tard dans Josué 6 que les murailles de Jéricho vont lamentablement tomber, non pas par la force, mais uniquement par la puissance de Dieu. Donc de manière humainement miraculeuse. Et en fait, Josué va rester fidèle à cette promesse que les deux espions lui ont faite au moment de conquérir Jéricho. Josué 6, 25 nous dit « Josué laissa la vie sauve à Rahab, la prostituée, ainsi qu'aux membres de sa famille. Il épargna tous ses biens parce qu'elle avait caché les hommes que Josué avait envoyés en reconnaissance à Jéricho. Elle a habité parmi les Israélites jusqu'à aujourd'hui. » Incroyable, à cause de sa foi, Rahab qui aurait dû mourir en fait lors de cette conquête de Jéricho. En fait, elle a été sauvée. Une fois qu'elle a mise en action en prenant soin des deux espions envoyés par Josué. Voilà pourquoi, en fait, elle fait partie de ces héros de la foi qui sont mentionnés dans Hébreux 11. Le verset 31 de Hébreux 11 nous dit « Par la foi, Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec ceux qui étaient désobéissants envers Dieu, parce qu'elle avait accueilli avec bienveillance les Israélites envoyés en éclaireur. » Et Jacques aussi la mentionne dans son épître au chapitre 2 lorsqu'il parle des actes de la foi. Il va mentionner Abraham d'abord, et puis il va ensuite mentionner Rahab. Vous le voyez donc je lis Jacques 2, 24 à 25. Vous le voyez donc, on est déclaré juste devant Dieu à cause de ses actes et pas uniquement à cause de sa foi. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas aussi été déclarée juste par Dieu à cause de ses actes lorsqu'elle a donné asile aux envoyés israélites et les a aidés à s'échapper par un autre chemin? Non seulement, en fait, Rahab a été sauvée par sa foi, mais elle aussi déclarée juste par sa foi. Pourtant, si on s'arrête à qui était Rahab, tout l'a disqualifié. Et c'est ce que je vous propose de creuser ensemble sur le point suivant. Si on revient un peu dans l'histoire, dans le livre du Deutéronome au chapitre 7, Moïse donne des instructions claires de Dieu au peuple d'Israël concernant l'attitude à adopter contre tous ces peuples, dont les Cananéens, que Dieu aura livrés entre les mains de son peuple. Je vous lis pas le passage entier, mais dans Deutéronome 7 au verset 2, il est écrit « Lorsqu'il te les aura livrés et que tu les auras vaincus, tu les extermineras totalement pour les vouer à l'Éternel. Tu ne concluras pas d'alliance avec eux, tu n'auras pour eux aucune pitié. » Donc Rahab, en tant que cananéenne, a été destinée, elle aussi, à être exterminée, au même titre que ses compatriotes. D'autre part, c'est une femme. Donc avec un statut social très faible aux yeux de la société de l'époque. Plus encore, c'est une prostituée. Et aux yeux des Israélites, les prostituées étaient généralement considérées avec mépris, stigmatisation. La prostitution était vue comme une activité immorale, contraire aux lois de Dieu, au point même d'être utilisée symboliquement par des prophètes pour représenter l'infidélité spirituelle d'Israël envers Dieu. En fait, tout l'a disqualifié pour être sauvé. Dieu pourtant va faire une chose incroyable. Il va user d'une grâce divine pour non seulement la sauver de l'extermination, mais en plus faire d'elle un membre à part entière du peuple de Dieu. Plus encore, Dieu va lui accorder une grâce toute particulière. Une grâce qu'on voit dans Matthieu 1, vous savez, la longue généalogie de Jésus. Rahab fait partie de la généalogie de Jésus. Elle est une ancêtre du roi David. Quelle grâce! Elle n'avait aucune place parmi le peuple de Dieu selon des critères humains. Et pourtant, elle est là, épargnée, membre à part entière et dans la généalogie de Jésus. Voilà à quel point la grâce de Dieu peut être incroyable. Et il est intéressant de noter que dans le récit de Rahab, cette grâce de Dieu, elle est symbolisée par un cordon rouge. C'est ce cordon rouge qu'elle va attacher à sa fenêtre. Cordon rouge qui deviendra le signe visible de la promesse de son salut, puisque ce cordon sera le seul repère que les espions utiliseront pour épargner sa maison. Ce cordon rouge attaché à cette fenêtre, est-ce qu'il ne vous rappelle pas quelque chose? Il ne vous rappelle pas un autre symbole, quelques années plus tôt, 500 d'années plus tôt, le sang sur la porte des maisons d'Israélites lors de la Pâque avant qu'ils s'enfuient dans le désert. C'était un signe d'un salut donné par grâce, un signe qui annonçait quelque chose de bien plus grand, de bien plus profond, un signe en fait qui vient pointer vers quelque chose qui arrivera des années encore après. Le sang de Jésus-Christ versé pour couvrir parfaitement le péché. Et quand on regarde Rahab, on voit plus qu'un personnage en fait du passé. À travers elle, c'est presque toute l'humanité entière, c'est vous et moi que l'on peut reconnaître. Et je vous invite à regarder ensemble un tableau comparatif, justement, faire cette comparaison entre la vie de Rahab et la nôtre aujourd'hui en 2026. Je ne sais pas si vous le voyez, Rahab, donc une femme cananéenne, étrangère, éloignée du peuple de Dieu. Nous, aujourd'hui, à la base, la Bible le dit clairement, notre nature pécheresse fait que tous ont péché donc et sont privés de la gloire de Dieu. Ce n'est pas juste une théorie, c'est une réalité. Qui peut prétendre ici n'avoir jamais menti? Ben, ça suffit juste à rentrer dans ces critères qu'on est privé de la gloire de Dieu à la base. Notre péché, aussi petit puisse-t-il paraître, nous disqualifie de pouvoir nous présenter devant Dieu et encore moins, il nous disqualifie encore plus, pardon, d'être dans l'équipe de Dieu. Si on continue, Rahab, c'est une prostituée, donc symbole de l'infidélité. Nous, à cause de notre péché, on est spirituellement infidèle à Dieu. Si on continue encore, Rahab, en fait, elle est condamnée, vouée à périr comme le reste de Jéricho. Nous, de la même manière, notre péché nous condamne. Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Et si on continue encore, ça ne s'arrête pas là, heureusement. Rahab est sauvée par sa foi. De la même manière, nous, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Par grâce, Dieu a choisi non pas de nous exterminer, mais de rétablir ce lien qui était brisé entre l'humanité et lui. Il a pour cela envoyé son Fils Jésus-Christ pour restaurer ce lien. Jésus, en fait, il est venu révéler le Père. Il est venu révéler même son cœur. Il est venu porter sur la croix le poids de notre péché et il a payé à notre place ce que nous devions à Dieu. Et il n'est pas resté mort. Dieu l'a ressuscité. Jésus a vaincu le péché et la mort. Amen. Et il l'a fait pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et enfin, en dernier, on peut le mettre. Je ne sais pas si vous le voyez, mais en fait, Rahab, non pas par ses mérites, non pas par rapport à son passé, non pas par rapport à son statut, non pas par ses œuvres, mais elle est sauvée uniquement par la grâce de Dieu. Et c'est pour cela qu'elle intègre le peuple d'Israël. De la même manière, rien en nous ne nous permettrait d'être dans l'équipe de Dieu. Pourtant, par grâce, en Jésus-Christ et par la foi en Jésus-Christ, nous devenons citoyens du royaume de Dieu. À travers ce magnifique exemple de foi de Rahab, Dieu vient nous interpeller ce matin. Rien ne prédisposait Rahab non seulement à être sauvée, mais encore moins à faire partie intégrante du peuple de Dieu que Dieu a choisi pour le représenter sur terre. De la même manière, aucun d'entre nous ici présents n'était prédisposé à être sauvé d'une mort certaine à cause de nos péchés. Ce n'est pas par nos mérites, ce n'est pas par nos forces que nous arrivons à atteindre les bonnes grâces de Dieu, mais c'est uniquement par sa grâce et par le moyen de la foi que nous avons accès à Dieu. Non pas grâce à qui je suis, à mes efforts, à mon statut social, à qui je suis dans la vie, à mon travail, à ce que je fais dans l'église, à ce que je fais à la maison, à comment j'élève mes enfants, à comment je vis ma vie de manière générale, non pas, il n'y a rien de tout ça. Au contraire, si je prenais en compte tout ce que je viens de vous citer, je serais d'office disqualifié devant Dieu. Uniquement par la grâce que je peux être sauvé par le moyen de la foi. Et je voudrais m'adresser à chacun ce matin. Je ne vous connais pas et je ne sais pas si certains ici peut-être ne connaissent pas encore bien Jésus-Christ. L'exemple de Rahab nous le montre. Tout le monde peut être sauvé. Ce n'est pas par ses forces que Rahab a pu intégrer ce peuple d'Israël. Ce n'est pas par sa force qu'elle a pu être sauvée. C'est uniquement par grâce en Jésus-Christ. De la même manière, tu le peux. Il suffit juste de tendre ta main vers la main tendue de Dieu, vers toi. Jésus-Christ a déjà payé le prix il y a 2000 ans. Si tu confesses réellement que tu es pécheur devant Dieu et que tu acceptes que ce sacrifice et cette résurrection de Jésus te concernent, alors toi aussi, tu peux faire partie intégrante de ce peuple de Dieu. Tu peux faire partie de l'équipe gagnante. Et je voudrais m'adresser aussi à ceux qui ont déjà placé leur foi en ce Dieu, en Jésus-Christ. Cette foi, Rahab l'a mise en action. Elle avait une pleine confiance en la toute-puissance de Dieu pour détruire Jéricho. Et elle a par la foi décidé de prendre part à ce plan de Dieu, en lui faisant pleinement confiance, quitte à mettre sa vie en péril. De la même manière, c'est Dieu qui a suscité cette foi en toi et moi, pour que nous fassions ce premier pas vers lui. Mais encore aujourd'hui, Dieu nous appelle à mettre notre foi en action pour lui, pour l'avancement de son royaume. Et ça se manifeste de plusieurs manières, à commencer par le fait, en fait, de lui confier notre vie tout entière. Dieu est celui qui connaît tout. Il est omniscient, il peut tout, il est omnipotent. Qui d'autre que Dieu peut savoir exactement ce dont toi et moi avons besoin? C'est aussi décider donc de vivre, non plus par mes propres forces, mais avec celles que Dieu me donne par son Esprit Saint. Plus encore, c'est vivre non plus pour moi, pour mon confort, mais pour sa gloire uniquement. Dieu t'a choisi, il m'a choisi pour faire partie de son équipe et nous saisir pleinement des œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi et pour moi. Alors, laissons les rênes de nos vies à Dieu pour que nos vies s'inscrivent pleinement dans son plan. Je voudrais conclure en relisant Hébreux 11. 31. Par la foi, Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec ceux qui étaient désobéissants envers Dieu, parce qu'elle avait accueilli avec bienveillance les Israélites envoyés en éclaireur. Que ce magnifique exemple de foi puisse vraiment nous encourager à continuer jour après jour à élever nos voix vers notre Dieu fidèle et compatissant. En fait, il aurait pu, dans sa sainteté, nous exterminer, tous autant que nous sommes, à cause de notre péché. Mais il nous fait grâce. Il nous offre le privilège d'être arrachés des ténèbres dans lesquelles nous étions, arrachés de cette équipe qui était déjà perdante et qui est perdante, pour nous placer dans son équipe qui a déjà acquis la victoire en Jésus-Christ. Oui, nous faisons désormais, en tant qu'Église, partie intégrante de l'équipe de Dieu. dans l'attente que Jésus revienne. Que Dieu soit glorifié. Amen.